Vous écoutez
RMC. RMC. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Oh non, 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 non.
Jérôme
Rotten.
19h tout pile sur RMC. On est en mode live dans Rotten sans flamme. Le Portugal va commencer là dans un instant sa Coupe du Monde contre la République du Congo. On va suivre ça en intégralité avec Benoît Costi, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Et si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours. Elle est disponible en podcast. Vous pouvez aller télécharger le podcast. Parti. Mais surtout, restez à l'écoute de Rotten sans flamme. On est là jusqu'à 20h.
C'est parti à Houston, Xavier Grimaud. C'est parti entre le Portugal et la RDC.
Ouais, c'est parti. Il y a deux petites secondes. Vous arrivez pile à temps dans le NRG Stadium de Houston. 68 000 places pour vous faire la carte postale. Un immense toit rétractable. Du coup, forcément, le son, il est très, très, très élevé avec notamment beaucoup. Beaucoup plus de supporters portugais, même s'il y a une très bonne communauté congolaise qui est au Texas et notamment à Houston. Mais les Portugais sont largement plus nombreux que les Congolais, et immense ferveur dès que Cristiano Ronaldo apparaissait, était cité par le speaker. Bref, c'est le joueur à part évidemment de cette Coupe du Monde avec Léo Messi. On va voir si les Portugais, qu'on place toujours en position d'outsider, vont réussir à se défaire de cette équipe du Congo qui retrouve la Coupe du Monde 52 ans après. Deuxième participation pour les Léopards qui vont se mettre en mode défensif, c'est quasiment certain. Alors, est-ce que je vous rappelle les compos, messieurs?
Après Xavier, il est 19h02, vous écoutez RMC, Rotten sans flamme, et le monde du foot est en deuil. On vient d'apprendre une bien triste nouvelle que tu vas pouvoir nous confirmer. Malheureusement, Xavier, toi qui es correspondant dans l'Ouest tout au long de l'année sur RMC, on a appris le décès il y a quelques minutes de Éric Roy. Ça a été annoncé par sa famille sur les réseaux sociaux. Éric Roy, entraîneur de Brest depuis 2023, qui a été coéquipier de Jérôme à Troyes, coéquipier de Duga aussi à l'OM. Éric Roy, un personnage qu'on aimait beaucoup sur RMC, qui a fait partie de la bande de Rotten sans flamme. Mais donc on a appris son décès il y a quelques minutes, Xavier, malheureusement.
Oui, je vous cache pas que c'est pas simple. On a reçu l'alerte, effectivement. Voilà, il est décédé, Éric Roy, à 58 ans, et malheureusement, il a toujours été très discret, très humble et très courageux dans son épreuve. Mais on savait depuis maintenant de longs mois que Éric Roy était malade. On a pu voir cette saison des changements physiques, lors de ses apparitions publiques. Mais il n'a jamais rien voulu dire. Il a toujours voulu affronter ça avec courage et dans son intimité. Et malheureusement, effectivement, il est décédé. C'est une nouvelle terrible pour le monde du foot, évidemment, parce que c'était un personnage très attachant. C'était un super coach, et vraiment un plaisir de le côtoyer depuis qu'il était à Brest. Donc c'est une très, très triste.
Je me permets juste, Xavier, je vais lire le communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux d'Éric Roy. Nous avons eu la très grande tristesse de vous annoncer donc le décès de notre papa et mari, Éric Croix. Depuis 3 ans et demi, papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, portée par l'amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l'a jamais quitté. C'est jamais facile de réagir à chaud à ce type de nouvelles. On pense à la famille, évidemment, et à tous ses proches. Duga, est-ce que tu veux dire un mot sur Éric Roy, que tu connais bien d'ailleurs, sur le terrain et en dehors?
Ouais, c'est triste parce que c'était mon copain et ça fait beaucoup de peine. Je l'ai connu très longtemps, sa famille, bien évidemment, je pense beaucoup à sa femme. Il avait beaucoup de courage, continuait à travailler alors qu'il vivait ça, ça fait beaucoup de peine. Bon, ça m'entend, il va nous manquer.
On comprend ton émotion, du gars. On comprend, évidemment. Ton émotion pour la disparition de ton ami Éric Roy. Jérôme, toi aussi, tu l'as bien connu. Il a bossé avec nous dans Rotten sans flamme. Tu l'as connu à Troyes en tant que coéquipier.
Ouais, c'est vrai que c'est terrible d'apprendre ces nouvelles-là, partir aussi jeune. Moi, j'ai pas de mots, si ce n'est d'avoir une énorme pensée pour lui, parce que quel courage d'avoir subi cette putain de maladie comme ça, sans rien dire, en gardant la passion du foot, en tirant le maximum. Jamais il s'est plaint, jamais. Et moi, je le savais, mais il fallait rester très discret de ce qu'il vivait. Et dans tous les cas, il y en avait qu'un qui pouvait en parler, c'était lui. Et tant qu'il ne voulait pas en parler publiquement. Et donc, C'est terrible parce que tu t'attends jamais à ça, même si tu sais que l'issue était compliquée. Tu crois toujours au miracle et des miracles il y en a fait sportivement et moi je retiens ça et tu vois c'est cette passion, un acharné du foot qui n'a jamais lâché, ça n'a jamais été facile après sa carrière de joueur parce que il a voulu se lancer, on l'a pu faire appel à lui et puis quand on a fait appel à lui il a fait des choses incroyables à Brest. Donc j'espère que l'hommage sera à la hauteur de ce qu'il a apporté au Stade Brestois et exactement. Au football français. Mais et comme tu l'as dit, c'est un de mes anciens coéquipiers. J'étais jeune à Troyes, mais je sais ce qu'il m'a aussi apporté à ce moment-là. Quand t'es jeune, les anciens te transmettent pas mal de choses et à jamais je retiendrai ça. Donc j'ai vraiment une grande pensée pour sa famille.
On en est persuadé.
Je suis très touché, mais bon, ça on s'en fout. Ce que je veux dire, que je sois touché ou pas, il reviendra pas pour autant. Donc ouais, c'est difficile. C'est difficile.
On espère que la fédération et on sans doute va lui rendre un hommage appuyé, un personnage important du foot français. Donc Eric Roy, on a appris son décès il y a quelques minutes. C'est sa famille qui a communiqué sur les réseaux sociaux. Benoît, tu vas avoir un mot aussi pour Eric.
C'est difficile d'avoir les mots, je ne l'ai pas connu comme Christophe ou comme Jérôme. J'ai eu la chance de le côtoyer sur un événement aux Caraïbes il y a quelques années. Il avait été tout simplement fantastique. Non, c'est juste une énorme pensée pour sa famille, pour ses proches. Et bien évidemment, j'espère que le foot français lui rendra le plus beau des hommages et le plus beau des hommages, parce qu'il le mérite vraiment.
19h07 sur RMC, Rotten sans flamme, retour au direct, retour à la Coupe du Monde. Et donc l'ouverture du score à l'instant du Portugal face à la RDC, Xavier Grimaud.
Ouais, exactement, ils n'ont pas traîné les Portugais. Retour au terrain, évidemment, même si c'est pas simple avec le but de Joao Neves. Le Parisien à l'instant, la belle frappe qui bat Lionel Mpassi, le gardien du Havre. Après seulement 6 petites minutes de jeu, les Portugais qui prennent l'avantage. Elle est jolie cette frappe, elle est très belle. Cette tête de Joao Neves, là, tête décroisée. Lionel Mpassi ne peut absolument rien faire. C'est pas le plus grand des Portugais. Mais il a sauté très haut et il permet aux Portugais de mener au très score. Bon. Très bon timing.
T'as raison, Xavier, de dire que le timing, la tête est fabuleuse, mais il maîtrise. Hein. Il n'est pas très grand, Joao Neves, mais au PSG, il en a mis un, rappelez-vous, contre le Bayern de Munich, très important. Il a cette détente, ce timing-là, il sent les coups.
Il arrive lancé en plus.
Ouais. Et puis après, il faut avoir un sacré coup de boule pour la placer là, en mettant de la force. Franchement, c'est un vrai geste technique. Moi, j'étais pas un grand joueur de tête, donc j'étais incapable de faire ça. Mais franchement.
Toi, tu posais le ballon sur la tête des autres.
Ah non, non, mais ouais, je préférais. Puis ça fait mal. Et le jeu de tête, ça fait mal quand tu la prends mal. Donc je préférais mettre des centres bien brossés, comme ça, il s'arrachait le crâne.
19h08 sur RMC.
C'est le centre de Pedro Neto, hein. Jérôme, il a dû te plaire. Ah,
exactement.
Centre du pied gauche.
Ah, en plus, pied gauche.
Des
gauchers, les Portugais, là, on va se régaler toute la Coupe du Monde parce qu'ils en ont un paquet.
On va suivre ce match en intégralité, 1-0 pour le Portugal face à la RDC, 7 minutes de jeu. On s'est permis de libérer Christophe Dugarry qui est très touché par cette tragique nouvelle qui vient de tomber, donc le décès d'Éric Roy à qui on pense fortement. On va tout de suite accueillir Jean-Louis Tour en direct des États-Unis qui est la voix du foot et la voix des Bleus sur RMC. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Salut Jean-Louis.
J'accueille également un grand personnage d'RMC qui s'invite ce soir dans Rotten sans flamme, c'est Olivier Truchot des GG. Salut Olivier.
Salut les amis, bonjour à tous, ravi d'être là.
Merci d'être là Olivier. On veut retrouver un peu de sourire après cette triste nouvelle parce qu'on voulait débattre de Kylian Mbappé. Est-ce que nous sommes trop durs avec Mbappé? C'est ton avis à toi Olivier, tu vas nous expliquer pourquoi, mais auparavant on voulait revenir avec Jean-Louis sur son match, le match du capitaine hier qui a fait finalement du Mbappé avec du déchet mais avec début magnifique et la victoire offerte à l'équipe de France.
Oui, on va être factuel, ces 57 premières minutes elles sont chaotiques, très chaotiques, pas bonnes, entre des mauvais contrôles, des mauvaises passes, mauvais timing, et puis tout s'éclaire d'un coup, un face-à-face où il bute sur Mendy, le pénalty qu'il est proche d'obtenir face à Sadio Mané, mais surtout cette ouverture du score sur le service d'Olise, un mouvement entre les deux d'ailleurs qu'on avait déjà vu lors des matchs de préparation, et puis la cerise sur le gâteau, signe en plus du retour de la confiance, et cette frappe de 25-30 mètres qui surprend Edouard Mendy en fin de match, ça fait donc doubler pour lui en Coupe du Monde. L'histoire d'amour entre cette compétition et Mbappé continue, il devient avec ce doublé le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 58 buts devant Giroud, le meilleur buteur français en Coupe du Monde avec 14 réalisations devant Jules Fontaine, et il est donc désormais à deux longues Berger, du record de but sur plusieurs éditions, qui était détenu juste là par le seul Miroslav Klose, mais désormais, depuis son triplé hier, il est accompagné par Lionel Messi.
Merci Jean-Louis. Reste avec nous parce que toi aussi tu t'es fait allumer par Olivier Truchot. Hein. Ah, il a réglé ses comptes avec chacun d'entre
nous. Ouais, t'as pris le bac aussi.
C'était gratuit, Jean-Louis. Gratuit.
Alors, Olivier, vas-y, c'est ton moment. Tu es dans Rotten sans flamme.
Vas-y.
Une émission que tu écoutes tous les soirs.
Maintenant, assume, on est là.
Allez, crache ta balle d'or.
Alors, déjà, je voudrais dire, pas pour vous flatter, mais que je suis un fidèle auditeur de Rotten sans flamme.
C'est vrai, on le sait.
Donc, c'est pour ça que ça me déçoit d'autant plus.
Je parle en connaissance de cause. Je vous écoute très souvent. Et c'est vrai que je ronge mon frein depuis des semaines, voire des mois, lorsque je vous entends débattre de Mbappé, de ses performances. Mais j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur la communication du garçon, sur ce qu'il peut raconter en dehors des terrains, ce qu'il peut, la façon dont il lui-même peut s'afficher. Et vous avez oublié l'essentiel. Et je crois qu'hier, notre attaquant vous a rappelé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le terrain, c'est la vérité du terrain. Et je crois qu'hier, de la plus belle des façons, il a remis les pendules à l'heure. Alors il n'a pas fait un très grand match, effectivement, je suis d'accord, la première mi-temps était difficile, mais pour tous les Bleus. Et puis la deuxième mi-temps, il a démontré qu'il était un très grand joueur. Et c'est pas à vous les spécialistes du foot que je vais apprendre que les très grands joueurs se démarquent des simples bons joueurs, parce que quand ils sont là au rendez-vous, il est régulièrement là pour les grands rendez-vous, notamment de l'équipe de France. Et c'est ça qu'on attend d'un joueur exceptionnel comme Mbappé. Et il l'a démontré hier. Il a débloqué la situation. Alors, il n'a pas été seul, il y a Olise, etc. Mais enfin, c'est quand même lui qui a marqué les deux buts, et notamment le premier qui était important. Je rappellerai également qu'il a toujours répondu présent en équipe de France. Donc je ne comprends même pas le débat sur sa présence chez les Bleus. C'est lui qui nous met quand même un triplé en finale de la Coupe du Monde 2022. C'est lui qui met un but en finale de la Coupe du Monde 2018. Bref, Mbappé, il est essentiel. Et aujourd'hui, j'aimerais que Jérôme s'excuse publiquement et se rende compte qu'il a dit quand même beaucoup de conneries.
Tu alors, veux t'excuser,
alors,
Jérôme?
Alors, Olivier.
Dis pardon, Olivier.
Non, mais Olivier, déjà.
Non, pas
déjà,
pardon à moi, pardon à Kiki.
Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'excuse à mettre en place. Alors déjà, toi comme auditeur, comme tu as dit, régulier, je ne vois pas en quoi, moi, j'ai critiqué le joueur Kylian Mbappé, le joueur de football, qui est stratosphérique, qui a des stats incroyables depuis qu'il est sur un terrain, qu'il soit à Monaco, qu'il soit au PSG, qu'il soit au Real Madrid. Même quand il y a des années blanches, collectivement, il ne gagne pas de trophée, il a toujours des stats hallucinantes. Donc en aucun cas en équipe de France, c'est le meilleur buteur maintenant de l'histoire de l'équipe de France. Donc je vais pas aller critiquer Kylian Mbappé, sa présence ou pas sur le terrain. Sa présence, elle a toujours été logique dans tous les cas. Et jamais, Olivier, tu peux pas me faire ce procès-là. Jamais j'ai dit Kylian, il doit être sur le banc. Jamais je me serais permis de dire ça. Après, de faire de la place aux autres pour que tout le monde trouve son épanouissement, c'est la réalité. Ça, c'est un constat. Après, pour revenir aux critiques sur Kylian Mbappé et mes critiques régulières sur Kylian Mbappé, en effet, comme tu l'as dit, c'est des choses qui se passent en dehors du terrain, dans son attitude. Donc, moi, je vais revenir, si tu veux, c'est factuel. C'est comme ça. En France, au Paris Saint-Germain, il s'est passé 5 années fantastiques, les 2 dernières années un petit peu moins. Le départ du Paris Saint-Germain laisse un petit peu à désirer par rapport à l'attitude, à l'image du Paris Saint-Germain, des dirigeants et de Kylian Mbappé. À l'arrivée, il y a eu un conflit, il y a eu les tribunaux, des choses qui se sont passées en effet dans la communication, même dans ses actes, qui laissent un petit peu à désirer. Mais ça, c'est moi personnellement où j'ai ressenti, si tu veux, que il y avait eu un manque de sincérité de la part du clan Mbappé et de Kylian. OK. Une fois que tu sais ça, ça a braqué un petit peu les supporters, certains supporters du PSG, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'à depuis 2 ans au Real Madrid, où il marque beaucoup de buts,
oui, mais
c'est pas moi qui suis responsable des sifflets qu'il a à Bernabéu, de l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire, où en effet, au lieu de rassembler, il divise, même dans le vestiaire au Real. C'est pas Jérôme Rotten qui le dit, c'est tous les joueurs du Real et tous les supporters qui le sifflent dernièrement.
Oui, mais moi je suis pas supporter espagnol, moi je suis pas supporter du Real.
Mais toi,
moi,
t'es supporter de l'équipe de France.
De l'équipe de France et du Paris Saint-Germain.
Ça tombe bien, Olivier.
Le bilan au PSG est plus que positif. Alors, effectivement, les dernières années étaient compliquées, mais en fait, il est plus que positif au PSG.
Je ne critique pas encore une fois ses performances, le nombre de buts qu'il marque, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je reviens sur sa prestation d'hier. En effet, il est là pour marquer des buts.
Mais tu lui reproches quoi alors? Tu le reproches lui, ses mais déclarations.
Je reproche, si tu veux, le fait qu'aujourd'hui, c'est une icône, c'est une star internationale.
Oui.
D'accord, il a été formaté comme ça. Il le dit même lui. Il y a eu un reportage dernièrement.
Il n'a pas eu le choix, en fait.
Il a été. Non, mais bon, après, tu as toujours le choix dans ta communication de rester un petit peu discret ou de te mettre en avant. Non, mais
quand tu deviens une star une star de cinéma, tu t'appartiens plus.
Mais
tu appartiens effectivement au commentateur. Et le moindre écart de Mbappé.
Mais Olivier, tu as la mémoire courte.
Tu le sais bien.
Mais vous oubliez, en fait, le fait qu'il marque des buts à la Coupe du Monde, vous oubliez. Tout ce qu'il a fait, moi,
mais parce que c'est
j'ai
ça
pas Alzheimer. J'ai pas Alzheimer, je retiens. Je retiens qu'il y a quelques mois, il a fait, quand il est arrivé au Real Madrid, qu'il y avait un conflit avec le PSG. Il voulait plus venir en équipe de France parce que monsieur était fatigué psychologiquement. Ok, Didier Deschamps l'a protégé. Et puis il y a un match où il est arrivé, il avait pas envie, où il y avait une petite blessure, il devait se faire soigner à Madrid. Au lieu d'aller à Madrid, il est parti en Suède. C'est quand même pas moi, c'est lui qui l'a fait. Ça a fait un tollé, d'accord. Quelques mois après, il y avait un match en Azerbaïdjan, là, avant la Coupe du Monde, où c'était un match cacahuète, en effet, parce qu'on était déjà qualifié. Le seul, lui, le bon capitaine qu'il est, il a décidé, avec Didier Deschamps qu'il protège, de pas aller en Azerbaïdjan.
Et d'aller.
Non, mais je vais te dire, quand tu te dis bon capitaine, meneur d'homme, tu ne fais pas ces trucs-là par rapport aux autres joueurs.
Vous croyez vraiment?
Mais tu penses qu'ils font quoi, les autres joueurs? En fait, tu penses que c'est des poupées, en fait, les mecs, en fait, ils doivent pas réagir, mais ils en pensent pas moins, je te le dis, Olivier. Et le problème à ça, c'est que quand tu décides, au lieu d'aller en Azerbaïdjan, parce que t'as une marque de montre qui t'a prévu une opération de paddle à Dubaï ou au Qatar, plutôt que d'aller en Azerbaïdjan avec tes potes, même si tu joues pas, tu préfères faire cette opération sponsoring. Comment nous, il faut l'appréhender? Parce que c'est Kylian Mbappé, donc on est obligé de dire, oh bah bravo Kylian, c'est magnifique ce que tu fais. T'es un joueur leader. Les critiques, mes critiques, elles viennent de là. Après, et juste pour finir, et je te laisse la parole, tu me parlais de l'équipe de France. En effet, l'équipe de France, derrière, les supporters de l'équipe de France. Et c'est pas Jérôme Roten qui parle, hein. Parce que moi, en effet, tu comprends pourquoi la communication, le fait d'avoir cet égo-là, de se mettre en avant, cette petite arrogance-là, moi, ça me dépasse par moment. Mais ça, c'est mon avis. Et ça n'efface en rien ses qualités de footballistique où je dis que c'est un joueur hors norme. Bon. Y a pas de problème. Les supporters de l'équipe de France,
Cristiano Ronaldo qui joue en ce moment là, Cristiano Ronaldo qui joue en ce moment.
Mais Cristiano Ronaldo, il n'a pas fait le quart de ce que Kylian Mbappé il a fait avec l'équipe de France.
Mais l'ego de Cristiano Ronaldo n'a rien à envier à celui de Mbappé. Et pourtant, on lui tombe dessus matin, midi et soir.
Et quand tu passes une saison au Real Madrid comme ça, et c'est encore mon avis, mais j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire parce que c'est ce que je pense. Et moi je dis les choses. Après que on me dise je suis un anti Mbappé ou quoi que ce soit, quand il est au Real Madrid qui vivent une saison catastrophique où il perd de tout, d'accord, où son image elle marque. Il se blesse. Il a quelques jours de repos. Mecs ils vont jouer un match important en championnat. Et lui, il est en vacances sur un yacht avec sa copine. Et il se fait flasher. Mais excuse-moi que quand t'es une icône et une star internationale comme Ronaldo, et ben tu restes discret. Non, alors si tu décides de pas être discret, dans ces cas-là, tu assumes de recevoir des critiques.
Mais tu imagines que Mbappé, depuis ses 18 ans, chaque geste, chaque déclaration, chaque apparition fait l'objet de commentaires, d'analyses, etc. C'est sans doute la rançon de ce qu'il est, mais il faut quand même avoir un peu d'indulgence. C'est-à-dire que si on nous suivait 24 heures sur 24, bah forcément, à un moment donné, tu vas dire une connerie, tu n'auras pas forcément le bon geste,
mais
la bonne attitude, etc.
Ça, Olivier.
Ce qui compte, mais il a voulu, mais d'accord, mais ce qui compte, c'est ce qu'il donne à voir comme sportif.
Et quand
on fera, dans 20 ou 30 ans, quand on se tournera sur l'histoire de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain, des grandes légendes du foot, sincèrement, le fait qu'il n'ait pas joué en Azerbaïdjan, on l'aura oublié. Hein. Sincèrement, le fait il aurait dû voir ses copains jouer, il était avec sa petite copine, on l'aura oublié ça.
L'attitude
restera,
l'image qu'il laisse,
les images, légendaires, c'est les images
Là tu me parles du terrain. Moi, mes critiques, elles viennent pas du terrain, elles viennent d'en dehors.
C'est
quand
ça,
tu es une
différence.
Star internationale.
Exactement.
Tu as des choses à analyser. Regarde Zinedine Zidane, j'ai eu la chance.
Il dit rien, lui. Il est planté.
J'ai eu la chance de jouer avec lui. Ah, c'était une star internationale, ça l'est encore dans tous les cas. Bon, bah écoute, il a su, si tu veux, rester un petit peu dans l'ombre sur certains sujets.
Mais parce qu'il ne dit rien, il prend pas de risque, Zizou, et c'est sa personnalité, il est comme ça. Bah, Mbappé, effectivement. Mbappé, tu sais pourquoi aussi il crée la polémique.
Il divise.
Parce qu'il s'est engagé, notamment après la mort de Naël, il a réagi, ça fait, et ça a créé la polémique. Effectivement, mais Mbappé n'a pas la même personnalité que Zizou, ça c'est évident.
Moi, ce qui me dérange plus, c'est pas de réagir sur certains sujets, c'est que derrière, quand tu réagis, il n'y a pas de problème, mais t'assumes. T'assumes que, au lieu de rassembler, tu vas diviser.
Dans le ring de boxe comme dans
quand
les
il assume, je dis qu'il est arrogant.
Allez, on fait mais juste non, un détour. Mais il assume pas parce que sa com aujourd'hui, alors, elle est toute, totalement maîtrisée.
Portugal RDC.
Il est même plus sincère, il n'y a plus de spontanéité. Il faut le reconnaître.
On en est où dans ce
truc qui se contente de marquer des buts. 1-0 pour le Portugal. 20 minutes de jeu ici à Houston. Le but très précoce de la 6e de Joao Neves sur un super centre du gauche de Pedro Neto. Et il y a des situations. C'est un match avec pas mal de rythme. On a vu notamment une frappe de la RDC. On avait un bon mouvement de Cédric Bakambu. Et côté portugais, un déboulé de Nuno Mendes. Et prise à deux dans la surface de réparation. Et ça a été dégagé par Mpassi. La domination portugaise, hein, malgré tout. Et l'ouverture du score, donc précoce. 1-0 pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.
Olivier Truchot, des grandes gueules avec nous. Il aime bien se faire engueuler entre 9h et midi.
Il se fait pas engueuler.
Il vient également se faire engueuler entre 18h et 20h.
Voilà, il m'engueule.
Et après le premier sparring, le deuxième arrive. Jean-Louis Tour est là, Olivier. Donc Jean-Louis.
Qu'est-ce que t'as à reprocher à Jean-Louis?
Non, parce qu'en plus, je pense qu'on n'est pas si éloigné. Non, mais moi, c'est plus un truc pour toi, Jérôme, en fait, plus que contre Olivier. C'est, en fait, tu t'arrêtes pas de dire les critiques, elles sont en dehors du terrain. Mais je pense que c'est lié avec le terrain, en fait. Pourquoi elles arrivent ces critiques? Parce qu'il a baissé à un moment donné sur le terrain. Et je pense que tout ce que tu décris, l'ego, la communication, tout ça, s'il faisait gagner ses équipes comme en 2018, comme en 2022, on en parlerait beaucoup moins. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de lier les deux. C'est que s'il nous fait la Coupe du Monde comme il l'a fait sur la dernière demi-heure hier, et ben je pense que tout ce que tu lui reproches en termes d'image, ça va être accepté par le groupe, mais ça va moi, être accepté par les gens autour, etc.
Non, Jean-Louis, ça sera pas
Jérôme. Dans un vestiaire, Jérôme, tu l'as connu, ça, quand même, des joueurs qui ont un peu des passes droits, etc. À partir du moment où ils font gagner leur équipe, c'est accepté par tout le monde.
Mais si
tu la fais pas gagner, ton équipe, c'est là où tous les défauts ressortent.
Mais ça, c'est une prise de risque, et t'as raison de le dire. Quand tu gagnes, c'est esquivé, c'est masqué. Il n'y a pas de problème.
Tout est effacé.
Et moi, je parle même pas de l'entendre dans le groupe. Parce que je crois les joueurs sincères quand ils te disent que c'est un bon capitaine, qu'ils rassemblent ou quoi que ce soit. Moi, je vais pas aller sur ce terrain-là. Parce que déjà, je suis pas dans le vestiaire. Et je sais pas si, avec eux, et j'espère pas, parce que si j'avais été, moi, à l'époque, avec un joueur comme ça, qui dégage autant d'arrogance, dans la presse, dans le vestiaire, je pense que je leur ai dit, écoute, arrête de
nous frapper. Et tu trouves sur le terrain, il était arrogant hier soir avec ses coéquipiers? Moi, j'ai pas trouvé.
C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'avec ses coéquipiers, j'espère juste qu'il n'y a pas cette arrogance-là, cette forme d'arrogance qu'il a quand il est quand il parle, quand il réagit.
Ils le soutiennent.
Donc, je crois à ça. Et Jean-Louis, t'as raison. Et quand tu gagnes, en plus de ça, t'oublies un petit peu les petits problèmes qu'il peut y avoir. Par contre, en effet, là où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Louis, et comme Olivier, c'est que même si on est champion du monde, et je le souhaite, et avec un Mbappé en forme comme il l'a été hier sur la dernière demi-heure, avec des joueurs autour, on peut l'être en effet. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont divisés sur Kylian Mbappé, ils vont pas changer leur fusil d'épaule. Je pense que le mal, il est fait. Et pour te dire que écoute, hier j'ai croisé des gens, j'en croise beaucoup ici au Flora, on est en public. J'ai une personne qui m'a marqué hier, qui est supporter de l'équipe de France, mais pas d'un club en particulier. Il adore l'équipe de France et tout ça. Le premier, c'est pas moi qui le dis, c'est le premier, il me dit, oui, à part Mbappé, moi j'en peux plus. J'en peux plus de ses réactions, son arrogance, son truc. Pour moi, ça sent le faux et c'est pas bien. Il pense qu'à sa gueule, Bon, écoute, j'étais même moi essayer de le calmer en disant.
Si on est champion du monde, Jérôme, je serais curieux d'entendre son discours.
Oui, mais
je pense pas.
Jean-Louis, Jérôme, Olivier, il y a Ben Costil qui est avec nous aussi. Olivier, moi, juste ce qui me surprend dans ta prise de parole, et pour aller dans le sens de Jérôme, Jérôme a jamais vraiment critiqué les performances sur le terrain.
Non, jamais.
Il a toujours
non.
défendu Mbappé en disant
non, mais c'est
à chaque fois
ça.
Qu'on dit que le problème du Real c'est Mbappé, c'est faux.
Oui, mais,
il met des buts parce
clair.
Que c'est le meilleur joueur. S'il n'était pas là,
c'est pour ça qu'Olivier, je comprends pas la
question. Non, mais en fait,
Olivier, écoute-moi deux secondes, parce que toi, un fin analyste politique comme toi et qui est justement un spécialiste du décryptage de la communication, ce qui me surprend, c'est que même toi, tu n'es pas choqué par la perte de spontanéité de la communication de Mbappé.
Ouais.
Et c'est ça qui gêne Jérôme, en fait.
Alors,
c'est
ça l'histoire.
Il y a un calcul derrière chaque prise de parole. Oui, c'est ça.
Je suis d'accord que sa communication est parfois maladroite. Je suis d'accord que parfois il se met dans des polémiques inutiles. Mais ce qui m'agace, en fait, c'est que on met ça au même plan que les performances sportives qu'on attend de lui. Et je trouve que parfois on s'égare. Pour moi, la communication, c'est l'écume des choses quand on est au niveau d'Mbappé, parce que c'est une star pas comme les autres, donc forcément beaucoup plus observée, et le moindre écart est condamné beaucoup plus que pour n'importe quel joueur. Oui. Mais je pense qu'il y a la même chose pour Cristiano Ronaldo, pour Messi, pour ces gens qui sont au-dessus des autres. Alors bien sûr que la communication, il doit revoir des choses, peut-être être plus spontané. Après, moi, j'ai une théorie.
Olivier, je te coupe là-dessus.
J'ai une théorie à vous soumettre.
La communication, tu dis, il va revoir. Mais sa communication aujourd'hui, est-ce que on lui a tendu le bâton une fois. Rappelle-toi, parce qu'il y en a eu plein, il faut avoir de la mémoire. Rappelle-toi avec Mouloud Achour là, quand ce qu'il a fait après tout ce qui se disait.
Après la Suède,
c'était incroyable. C'était l'occasion peut-être de reconnaître ses torts. Vous avez senti une remise en question, vous, de sa part?
Non, mais bon. Moi là,
je suis excusez-moi,
mais il n'y a jamais d'évolution.
Avec lui, s'il est nul sur le terrain.
Excusez-moi, mais juste à un point quand même, il n'y a eu aucun changement dans sa communication.
Il est bon, lui pardonne tout.
Il n'a jamais eu cette spontanéité. Rappelez-vous quand même Philippe Tournon, qui a écrit un bouquin qui avait expliqué que dès son plus jeune âge, il avait des espèces de préparation aux interviews avec des éléments de langage et tout. Donc, on ne peut pas lui dire maintenant il est moins spontané qu'avant, etc. Il a toujours été comme ça.
Mais moi, j'ai une théorie.
Jean-Louis, je suis pas d'accord avec Jean-Louis, quand il parlait du terrain, il analysait ses performances. Franchement, c'était fluide. En fait, et même c'était rafraîchissant. On était les premiers. Aujourd'hui, quand même, il y a des sorties, c'est quand même très maîtrisé. Hier, regarde sa sortie. Et encore une fois, moi, je m'en fous. C'est bien qu'ils disent le collectif, le ceci, cela. Mais il n'y pense pas une seule seconde. Hier, ce qui est important.
La théorie d'Olivier Truchot, on veut la connaître.
Ma théorie, et depuis toujours, je pense ça, je pense que ce garçon est très intelligent. Et je pense qu'il est plus intelligent que la moyenne de ses coéquipiers dans le foot aujourd'hui. Il y a un décalage. Son intelligence est prise pour de l'arrogance, parce qu'effectivement,
il essaie
de réfléchir.
Mais c'est une forme d'intelligence.
Il essaie. Alors parfois, mais l'intelligence peut conduire à l'arrogance, parce que on pense qu'on est un peu supérieur des autres.
Je t'ai entendu parler des footballeurs. Tu sais, il y a des footballeurs qui communiquent, qui ont pas le même langage, pas la même facilité à s'exprimer, mais qui ont aussi une autre forme d'intelligence et bien supérieure à Kylian Mbappé.
Il a envie de s'engager sur des terrains qui n'ont rien à voir avec le football. On lui reproche. Il a envie de maîtriser sa communication. Peut-être que d'autres joueurs ne font pas.
Quand t'es une star internationale, c'est normal.
Allez, il faut y aller.
Tu t'engages. Et ça fait parler. Forcément, ça divise.
Alors.
Et en plus, sur des sujets de société ou politiques qui vont diviser. Ça, c'est sûr, au lieu de rassembler.
Il prend un risque.
Ça, c'est sûr. Et moi, je finis, Olivier. En plus, dans tous les reproches que je peux lui faire, en dehors, encore une fois, de ses qualités et du terrain, c'est quand même pas moi qui l'ai obligé à acheter le stade Malherbe de Caen. Il a voulu devenir propriétaire d'un club. Manque de bol pour lui. Quand j'ai été formé, donc je suis très attaché à ce club-là. Et je connais beaucoup de gens qui vivent à Caen. Qu'est-ce qui s'est passé depuis son arrivée? Il en est où, le club à Caen? Est-ce que la gestion de Kylian Mbappé, alors il n'est pas le seul responsable
peut-être.
Donc dans les critiques, on a le droit aussi de dire que qu'il a fait de Caen pour l'instant, c'est une catastrophe.
Allez, stop.
Parce qu'il a marqué deux buts hier, il faudrait pas que je le dise.
Ce qui est plus important, c'est pas ça.
Ah non, si,
parce que c'est ce qu'il a fait hier et ce qu'il fera jusqu'à la finale.
Non, parce que le plus important, c'est qu'il a détruit un club comme Caen, qui a mis 40 ans à arriver au niveau professionnel, et que pour l'instant, ils ont détruit le club.
Alors, pour ma famille, c'est important.
Je leur souhaite de remonter le club au niveau professionnel, comme il l'était quand ils l'ont pris, allez, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Merci. Et donc ça, c'est bien de le dire aussi, qu'il
merci
a détruit un club Truchot, comme quand, non?
Bienvenue dans Rotten sans flamme, qui nous a
merci à tous, c'était un plaisir. Voilà.
Et en plus, en maltraitant des gens qui sont au club depuis plus de 30 ans.
Et quand est-ce que Jérôme va dans les grandes gueules?
Alors moi, je voudrais que Jérôme vienne nous voir dans les grandes gueules. Jérôme. Ouais. Si l'équipe de France continue à nous faire plaisir, tu viens dans les grandes gueules commenter tout
les
ça.
Deux, c'est incroyable.
Ah non, mais je viendrai commenter.
Merci Olivier, on souhaite tous merci une grande Coupe du Monde pour Kylian Mbappé, on veut être champion du monde.
Ah non, mais ça, non, mais sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais qui reste focus sur le terrain.
Exactement. Merci Olivier, merci Jean-Louis Tour.
Ciao.
Bonne soirée à vous deux. Ben Costil toujours avec nous. Le point sur le direct, Portugal RDC, Xavier Grimaud.
Oui, on va bientôt atteindre la demi-heure de jeu. 1-0 pour le Portugal. Le but de João Neves, le Parisien, dès la 6e sur un régal de centre de Pedro Neto. Et on essaye de trouver là ces dernières minutes à Cristiano Ronaldo. On a vu notamment un centre de Neto encore du gauche pour Ronaldo. Chancel Bemba, vigilant, qui a pu tacler pour dégager le ballon. Et à l'instant, c'est Cancelo qui a essayé de trouver l'avant-centre portugais. Et le centre était un tout petit peu trop lointain. Les Congolais essayent malgré tout de se projeter. Mais c'est compliqué malgré tout. Oui, ça, la mortie poitrine, les Congolais dans la surface de réparation, pourquoi pas, avec Kayembe qui rentre, qui se réveille sur son pied gauche. Il n'y a pas de solution, les Portugais se sont regroupés, le centre dégagé par Renato Vega. 1-0 pour le Portugal, on attend pile la demi-heure de jeu.
Et ce match, il est à suivre en direct, en intégralité, dans Rotten sans flamme sur RMC, en direct de la Brasserie Flora, jusqu'à 21h avec Jérôme Rotten, Ben Costil, et avec vous tous au 32-16.
Merci
à tout
Olivier.
Sur RMC.
Salut,
merci
Olivier
Truchot.
RMC Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
L'arbitre qui regarde sa montre, c'est fait. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h36 dans Rotten sans flamme, un Rotten sans flamme exceptionnel aujourd'hui déjà parce qu'on est en direct du Flora dans le 9e arrondissement sur les grands boulevards à Paris en public et puis parce qu'on est en mode live. Portugal, République du Congo, pour l'instant 1-0 pour les Portugais. On va suivre le match en intégralité. On est là jusqu'à 21h exceptionnellement avec Benoît Boutron, avec Benoît Costil, ouais, et puis avec Xavier qui est sur place.
Exactement. On rappelle la triste nouvelle qui concerne tout le foot français qu'on a appris il y a quelques minutes, le décès d'Éric Roy à 58 ans, ancien joueur de l'OM et de Nice. Il était actuellement l'entraîneur de Brest. Il a emmené Brest en Ligue des Champions. Il était coach depuis 2023. Nos pensées à sa famille et à ses proches. Retrouvons Xavier en direct de Houston pour ce Portugal-RDC. Les Portugais sont devant, Xavier, hein ?
Oui, les Portugais sont devant. On joue depuis 37 minutes au NRG Stadium de Houston. Et ils sont devant avec un but précoce, hein, dès la 6e. Superbe but de la tête du petit João Neves. Magnifique timing, magnifique détente sur un centre. C'est une galette, hein, de Pedro Neto du gauche. Et les Portugais n'ont pas spécialement eu de situation, hein, depuis l'ouverture du score. Ils ont la domination, hein, territoriale. Évidemment, les Congolais essayent. Ils se battent bien, je trouve, même si ils n'ont pas réussi à inquiéter Diogo Costa. Avec le ballon là qui est pour Vitinha, et on entendait dans le jingle, hein, 52 ans plus tard, c'est la deuxième participation à la Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo. La dernière, c'était en 74, à l'époque où le pays s'appelait encore le Zaïre. Donc ils ont attendu très longtemps, les Léopards, évidemment, pour revenir dans un mondial. Le ballon est dans le rond central avec Vitinha pour João Neves. João Neves qui va pouvoir jouer côté gauche là vers Nuno Mendes. On va temporiser avec Renato Vega, le défenseur de Villarreal, et les Congolais qui sont tous dans leur moitié de terrain, qui restent haut. Attention, est-ce qu'il y a hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu. Nuno Mendes n'est pas hors-jeu. Énorme occasion. Nuno Mendes dans la surface. Nuno Mendes qui crochette. Ah, le centre au point de pénalty. C'était Bruno Fernandes qui s'était projeté. Le ballon est toujours pour les Portugais. Ça va être récupéré par Mbemba. Oula, talonnade d'Mbemba. Qu'est-ce que c'est dangereux? Il ne faut pas faire ça. Dans la surface de réparation. On est à nouveau dans la surface avec Mendes. Mendes pour Bruno Fernandes. Il peut peut-être frapper de loin. Bruno Fernandes qui va temporiser avec Neves. Neves pour Neto. Neto pour Neves. Juste à l'angle de la surface. Alors, on a baissé un petit peu le rythme là. On aurait peut-être pu essayer d'aller chercher Ronaldo de la tête. Il y a un dédoublement de João Neves. On est tout proche de la ligne de but, du but congolais de Mpassi avec Neves. Neves pour Fernandez. Il faut rouler ça du droit. Fernandez, il va le faire, la frappe. C'est détourné dans la surface. Où est-ce qu'il y a faute? Non, un bon tacle d'Mbemba. Il n'y aura pas faute. Et la contre-attaque congolaise avec Wissa. Wissa pour Bakambu. Bakambu pour Kayembe. Kayembe qui a peut-être joué pour Moutos Sami, mais on est obligé de temporiser bon. Du côté des Congolais parce que les Portugais se sont vite regroupés. 1-0 pour la CSAO, la 39e minute de jeu. Le but de Joao Neves.
Jérôme, Benoît, on s'en doutait, mais il y a beaucoup de maîtrise technique côté portugais. Hein. C'est la grande force de cette équipe, ce milieu de terrain à 3, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. C'est impressionnant, Ben. Hein.
Ouais. Ousmane Dembélé aurait pu s'intégrer à cette équipe.
Ouais, c'est
comme en fait, il aurait été à l'aise.
Il m'en cachera pas droite.
Vitinha, João Neves, Nuno Mendes. Chaque fois qu'on envoie une action, ça vient d'un des Parisiens. Donc,
exactement.
Il y a de la maîtrise, on le sait. Hein. Maintenant, l'interrogation va être aussi sur la capacité de Cristiano Ronaldo à bonifier toutes les attaques.
Hein. Comment tu le juges, début de match, justement, de Cristiano Ronaldo, première période, parce qu'on arrive à la 40e, Xavier?
Bah, il est assez discret, il touche assez peu de ballons, aussi parce que le jeu des Portugais, Benoît l'a rappelé, c'est de beaucoup de maîtrise technique. On fait beaucoup tourner le ballon, donc on a essayé de le trouver hein, deux trois fois. Je le racontais tout à l'heure avec des centres venus de la droite, venus de la gauche, mais il redescend pas trop participer au jeu puisque le maître à jouer, hein, c'est évidemment Vitinha Neves et Bruno Fernandes. Donc il attend un peu qu'on le serve. Donc pour l'instant assez discret, mais bon, on sait qu'il lui en faut pas beaucoup hein, dans la surface de réparation pour marquer. Il a pas eu l'occasion de frapper encore. Je pense qu'il a dû toucher moins d'une dizaine de ballons. Hein. Je vais regarder ça pour Ronaldo. Évidemment, il n'a pas la même influence sur son équipe que peut l'avoir Léo Messi hier. Alors qu'une Ola débute dans le NRG Stadium là, qui est à 80% rouge de maillot portugais. 1-0, la 40e, un dégagement de la défense congolaise. On va avoir une touche très très haute pour les Portugais puisque la touche pour Nuno Mendes sera tout proche de l'entrée de la surface de réparation. Ah, et la Ola qui passe devant moi, je lève les bras. Nuno Mendes qui va faire cette pour en profiter hein. Le ballon pour Renato Vega. Tous les Congolais sont regroupés dans leurs 40 derniers mètres avec Vitinha à nouveau pour Vega, mais le Portugais s'est un petit peu arrêté. On va jouer à droite vers Arojo, le joueur du Benfica qui remplace Ruben Dias blessé. On va chercher Cancelo sur le côté droit. Il va tenter le grand pont. Cancelo, c'est bien défendu de la part, non, c'est défendu, oui, il y aura faute sur Arthur Masuaku, le joueur du RC Lens. Ça va permettre aux Congolais de se dégager. 4 minutes encore à jouer dans cette première période, 1-0 pour les Portugais.
On a vu pas mal d'équipes européennes casser les dents contre les nations africaines. La chance du Portugal, c'est d'avoir ouvert le score rapidement, Jérôme. Mmh. Ouais. Là, t'es plus rassuré pour les Portugais parce qu'ils ont vraiment une maîtrise totale sur ce début de match. Hein.
Oui, et puis ils mènent. C'est important parce que en menant, forcément, ça va amener au fur et à mesure du match, si ça reste à 1-0, à ce que l'équipe du Congo essaye de prendre des risques. Donc automatiquement, s'ils prennent des risques, s'ils libèrent un peu plus d'espace, vu la façon de fonctionner les Portugais, ils vont se créer des occasions. Et peut-être que là, ça sera l'occasion pour Cristiano Ronaldo de se créer des occasions. Mais bon, je te dis pas que le plus dur est fait, parce que 1-0, ça reste fragile. Mais vu ce qu'ils nous montrent, la maîtrise qu'ils ont depuis le début, je pense que ça va bien se passer pour cette entrée en lice des Portugais ce soir.
On y retourne à Houston. Encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première période, Xavier Grimaud.
Exactement, 5 minutes encore à jouer, un petit peu moins. Et le ballon qui tourne là dans la défense portugaise. J'étais en train de chercher le nombre de ballons touchés par Ronaldo. J'arrive pas à le trouver. Je vais vous trouver ça, mais en tout cas, je pense qu'il est à moins de 10. Attention, le ballon en profondeur. Faut bien défendre là pour Kayembe qui était placé là sur son côté droit. Non, c'était Wan-Bissaka, pardon. Et il va dégager en touche, une touche en faveur des Congolais puisque le ballon a été touché. Wan-Bissaka, le joueur de West Ham relégué en première ligue. Le ballon pour Johan Wissa. Il a touché le ballon de la main. A priori, Wissa, ce sera un coup franc donc en faveur des Portugais avec Vitinha. Les Portugais qui n'essayent pas forcément d'enflammer cette rencontre. Ils sont vraiment dans une gestion. Et ces buts précoces les renforcent. Ils mettent pas, ils se jettent pas complètement dans la gueule du loup pour essayer de marquer le deuxième. Ils en ont pas spécialement besoin pour le moment. Le ballon pour Cancelo côté droit avec Arojo. Arojo pour Vitinha en position de libéro. La Vitinha qui va passer à gauche vers Vega. Vega pour Nuno Mendes. Il n'y a pas beaucoup de champ. Il n'y a pas beaucoup de mouvement pour avancer. On est dans la moitié de terrain du Portugal. João Neves. Attention, faut pas se rater là avec la mortie poitrine. Vitinha. Ouais, ils vont perdre le ballon. Les Portugais, c'était dangereux. Ils y ont joué un petit peu facile peut-être là, sans conséquence, puisque le ballon va arriver jusqu'à Diogo Costa, côté droit avec Bernardo Silva. Ils sont complètement déstructurés. Là, Bernardo Silva est en position d'arrière droit et Vitinha en position de défenseur central. On va repasser à gauche vers Vegas, sont des séquences qu'on va peut-être voir un long moment dans cette rencontre de la possession, sans forcément essayer d'aller chercher de la verticalité pour les Portugais. Le ballon pour Vitinha. Vitinha avec Cancelo. Il faudrait très bien de prendre un petit peu le champ. C'est Arojo plutôt avec Cancelo justement là qui est touché. Mais les Congolais qui font les efforts juste pour casser les lignes de passe. 1-0.
Est-ce que vous mettez le Portugal au niveau des autres favoris de la Coupe du Monde, au niveau de la France et de l'Argentine, ou juste derrière, un cran en dessous, Jérôme, pour les Portugais?
Bon, après, ça joue à peu de choses, mais les Portugais, je les... vu la maîtrise technique qu'ils ont dans leur équipe, vu l'état de forme des joueurs, et là, on a la confirmation que les joueurs parisiens, déjà, ils sont bien en jambes.
Ça, c'est vrai.
Donc, on est obligé de les mettre parmi les favoris de la Coupe du Monde. Pour moi, il y en a deux au-dessus. C'est l'Argentine, parce qu'ils sont champions du monde en titre.
Ouais.
Et la France. Derrière, t'as l'Espagne.
Ah, tu mets l'Espagne derrière l'Argentine et la France.
Pour moi, je mets l'Espagne avec le Portugal dans ce groupe-là. J'ai du mal à voir une autre... on a vu la plupart des équipes jouer. Peut-être l'Angleterre. J'attends de voir avec la nouvelle façon de voir les choses de Thomas Tuchel, en rajeunissant un peu cette équipe, moins d'individualité, plus de collectif. Peut-être que les Anglais qui ont tourné autour des grandes compétitions dernièrement, en faisant des finales, en perdant et tout ça, peut-être qu'ils seront la bonne surprise aussi de cette Coupe du Monde.
Ben, t'es d'accord?
Après, les Portugais dans les grandes compétitions, Jérôme, et notamment dans les Coupes du Monde, ça fait un petit moment qu'ils n'ont
pas
été...
Ça fait longtemps.
Ne serait-ce que dans le dernier carré. Hein, éliminé en quart il y a 4 ans par l'équipe surprise, hein, le Maroc. 8e de finale seulement en 2018. Éliminé au premier tour en 2014. Ça remonte à 2006, finalement, pour les voir en demi-finale. Donc,
est-ce que ils ont eu beaucoup de joueurs double champion d'Europe leur équipe? Le milieu de terrain, il est incroyable. Ils ont certainement le meilleur latéral gauche du monde.
L'interrogation est presque devant.
Ils ont un bon gardien. Benoît, non, tu confirmes?
Ah, j'aime beaucoup. Hein.
Voilà. Bon, c'est pas le gardien de l'Algérie, tu vois.
Ça y est, il en met une. Il en met une.
C'est Lucas Zidane. C'est qui? Ah, c'était Zidane, merde.
C'est pas facile d'affronter Léo Messi, demande à Ben.
Non, mais toutes les équipes qu'a citées Jérôme tout à l'heure, c'est des équipes qui ont un finisseur. Hein. Entre la France, l'Angleterre, et Harry Kane.
Ça, c'est sûr.
Qui aussi,
L'Espagne avec Yamal.
Qui joue un peu plus.
Yamal, Williams, ces deux détonnés. Puis bon, surtout, ils sont tenants du titre. Du moins, ils ont gagné le dernier Euro. Donc, tu es obligé de les mettre dans les parties des.
Footballistiquement, l'équipe du Portugal me plaît beaucoup, moi. Ouais.
C'est vrai qu'après, tu vois, ressortir d'un chapeau une autre équipe. Alors, une équipe africaine. Je pense que oui, le Maroc a été impressionnant sur la première mi-temps contre le Brésil, mais que la première mi-temps.
Ouais.
Est-ce que ça va tenir sur la durée, hein, Benoît, le Marocain? C'est possible.
Bah oui, bien sûr.
Ou pas.
Moi, je mettais le Maroc dans le chapeau, hein, contrairement à vous, mais bon, après, c'est une question de point de vue.
Hein. Ouais. Tout là-haut.
Le Sénégal m'a déçu hier.
Tu mettais l'Algérie, toi, hier, dans les favoris. T'as changé d'avis ou pas?
Je te dis, je pensais pas que le gardien était aussi mauvais de l'Algérie.
Non, mais il va lui mettre des taquets toute la Coupe du Monde.
Excuse-moi, il a offert 2 buts à Léo Messi. Alors je veux bien qu'il soit fan de Léo Messi.
Ça va pas ou quoi?
Non, mais je veux bien qu'il soit fan de Léo Messi. Mais il a fait une claquette dans sa lucarne et il lui a dit: tiens, vas-y, allez, je te la remets au 5-50, t'as plus qu'à la mettre.
Allez, la fin de la première période à Houston entre le Portugal et la RDC, l'entrée en lice des Portugais, Xavier Grimaud.
Benoît qui me disait.
2 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. 1-0 pour le Portugal, le but de João Neves. À la 6e, son 4e but en sélection pour le Parisien, pour João Neves. On est côté droit avec Bernardo Silva, le contrôle de Bernardo Silva, où il a été refoulé là par Masuaku, c'est bien fait. Allez, il faut trouver une bonne ligne de passe, c'est fait. Masuaku avec Bakambu, allez, il faut aller au bout de l'effort, là il a beaucoup de champ. Masuaku, elle aurait pu aller un petit peu plus vite peut-être, mais elle est belle, ça passe pour Moutoussamy, la frappe de Moutoussamy, intérieur pied gauche, elle est contrée, il y aura un corner pour les Congolais. Ça, c'était un joli contre, avec une belle sortie de balle en 3 passes. Pour remonter 40 mètres, même si Masuaku, c'est pas Nuno Mendes, hein, il a essayé d'accélérer, mais il a pas réussi à bouffer l'espace comme peut le faire évidemment le latéral du PSG. Les mains sur les hanches, Masuaku, c'est vrai qu'ils ont couru pas mal dans le vide, les Congolais, et on arrive en fin de demi-temps. C'est quand même lui qui va tirer ce corner avec son pied gauche sur corner sur la gauche en regardant les buts de Diogo Costa. Évidemment, on est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Les coups de pied arrêtés, il faut les jouer à fond pour les Congolais. C'est des possibilités de se montrer dangereux. Il n'y a pas eu de tir cadré encore ou de vrai tir dangereux pour les Congolais. Masuaku tiré premier poteau. Il y a un Congolais au sol dans la surface. L'arbitre ne dit rien. On est côté droit maintenant avec Wan-Bissaka. Il va essayer de déborder le centre de Wan-Bissaka. Est-ce qu'il a dévissé ou est-ce qu'il a été contré? Il a été contré. A priori, il a pris une semelle sur la fin de son geste, semelle de Bruno Fernandes qui a pas l'air d'accord. Il a l'air de lui glisser quelques mots doux, mais il est resté au sol. Le joueur de West Ham, c'est Chancel Bemba qui était venu centrer d'ailleurs. Ah si, il y a bien. Oh oui, il fait un vilain coup sur le talon, totalement involontaire hein, de la part de Bruno Fernandes, mais c'est pas du chiquet pour le capitaine de la RDC.
Ah, oui.
Chancel Bemba,
oui, il le prend après, ouais.
Ça peut faire très mal ça, un peu sur le tendon d'Achille, même peut-être avec le haut du crampon. Il boite, le joueur le plus capé de l'histoire du Congo, Chancel Bemba, 108e sélection pour le défenseur central.
Et ce sera la dernière opportunité de cette première période, ouais. L'occasion pour la RDC d'égaliser face au Portugal, hein, Xavier Grimaud.
Exactement, et les milliers de Congolais qui sont dans le stade, je les vois s'agiter. Là, on voit des petites grappes bleues un peu partout dans le stade qui agitent les drapeaux, parce que là ce sera la dernière. Effectivement, corner tiré cette fois de la droite, en regardant les buts de Diogo Costa, de la droite vers la gauche, à nouveau pour Masuaku. On va le jouer à deux avec Muko qui va essayer de fixer, qui va très certainement se remettre sur son pied gauche. Muko pour Masuaku, il faut la mettre dans la boîte maintenant, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est fait, Johan Wissa, oh, le but, oh. La but, la tête de Wissa. Évidemment qu'il fallait le jouer à fond, ce coup de pied arrêté. Qu'il est bon ce centre, Jérôme, c'est la soirée des pieds gauches, hein, magnifique. Ah ouais. Oh, et la danse, oh, de tout le groupe congolais, c'est magnifique. Un partout, superbe tête décroisée de Johan Wissa. Ça fait un partout donc entre le Portugal et Congo, et l'égalisation au meilleur des moments pour la RDC. Un partout.
C'est la surprise à Houston, un partout désormais entre le Portugal et la RDC. Johan Wissa qui égalise comme ça de la tête sur un très bon centre, ouais, venu de la droite du pied gauche. Ben Costil, est-ce que le gardien est fautif, ouais, ou est-ce que la tête est magnifique?
Je me dis, c'est pas un centre au cordeau ou tendu ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'elle va assez haute et qu'elle.
Ouais, il avait le temps d'anticiper.
Je me dis que le gardien, avec un positionnement un peu plus haut, peut-être qu'il peut intervenir. Mais après, je dis ça comme ça, il faut revoir le ralenti.
Et tu vois, on disait que les nations africaines embêtaient les nations européennes. Après, encore une confirmation, Jérôme.
Oui, bah après, c'est sur un coup de pied arrêté. T'es jamais à l'abri comme ça. Et puis, il y a un petit peu de déconcentration. Ils sont pas dans le duel parce que le gardien, en effet,
est bien seul, hein.
Peut-être doit anticiper, mais le marquage laisse à désirer. Tu vois, t'as raison, Xavier. Il prend, il est même pas gêné dans son impulsion, oui, en fait. Il est tout seul complètement. Il a le temps d'ajuster. Ouais. Bon, écoute, c'est, il est pas en avance là. Il est, ah ouais, le but est accepté.
Non, il y a pas en jeu.
D'accord. Non, il part vraiment de l'arrière. Hein, et après, il se retrouve complètement seul. Et c'est vraiment le but au meilleur des moments pour la confiance pour les Congolais, puisque la mi-temps est sifflée à l'instant par l'arbitre qatari de cette rencontre. Un partout donc, ça va être intéressant en deuxième, parce que le Portugal va devoir s'employer, alors que peut-être que ça ronronnait un peu après avoir ouvert le score très de manière très précoce. On vous rappelle donc le but de Joao Neves à la sixième, sur un centre de Pedro Neto et sur un centre de Masuaku. C'est la tête de Johan Wissa, l'ancien Lorientais, l'ancien Angevin, le joueur de Newcastle. Un partout entre le Portugal et le Congo à la pause.
Xavier Grimaud à Houston, un partout entre les Portugais et les Congolais à la mi-temps. La joie de Sébastien Lezarbe, le sélectionneur français de cette équipe de la RDC. La seconde période dans un instant dans Rotten sans flamme sur RMC. On est en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. Et dans un instant, on va malheureusement revenir sur la tragique nouvelle de ce début de soirée, le décès d'Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois depuis 2023, malheureusement décédé à des suites d'un cancer du pancréas. On sera avec un de ses amis dans un instant. Pascal Olmeta va nous rejoindre. Il a joué plus de 100 matchs avec Éric Roy. Il sera avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Et attention, c'est un 4 contre 3 avec ce ballon qui va être glissé. La frappe roulée, ça fait 3 pour le Portugal. Raphaël Leão décalé sur ce côté gauche. Magnifique contre, parfaitement mené, parfaitement orchestré. Et ça fait 3 buts à 1 avec ce ballon enroulé, ce petit plat du pied de la part de Raphaël Leão.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h56 dans Rotten sans flamme, on est là, on est bien, on est en, exceptionnellement en live jusqu'à 21h dans Rotten sans flamme avec Benoît Costil, avec Benoît Boutron. On se régale avec Xavier Grimaud qui est parti se rafraîchir un petit peu. C'est la mi-temps entre le Portugal et la République du Congo et grande surprise, l'égalisation de Wissa. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un partout entre le Portugal et la République du Congo, ça c'est une surprise. Mais bon, on va pas s'arrêter là, on va avoir des buts en deuxième.
Et on a hâte de voir la seconde période ce soir. Un autre match magnifique vous attend sur RMC dans l'after, c'est Angleterre-Croatie à partir de 22h. Tous les matchs commentés sur RMC, soit à l'antenne, soit sur la radio digitale, vous ne loupez rien de la Coupe du Monde grâce à RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On est toujours en direct de la brasserie Flora, en plein cœur de Paris, sur les grands boulevards, dans le 9e arrondissement de Paris. Et on va revenir sur cette triste nouvelle qui nous a fait beaucoup de peine. Un ami de Rotten sans flamme, quelqu'un, un personnage emblématique du football français, nous a quitté. Ouais. Malheureusement, on l'a appris il y a quelques minutes. Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, qui était présent à Brest depuis 2023, décédé des suites d'un cancer du pancréas, un cancer contre lequel il luttait depuis plusieurs mois. On en parle, Jérôme, avec un de ses amis, un de ses coéquipiers. Ils ont disputé plus de 100 matchs ensemble sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Pascal Olmeta, membre de Rotten sans flamme avec nous, Jérôme.
Ouais, salut Pascal.
Salut les amis. Salut, salut Pascal. Tous les trois, tous les quatre. Ouais, salut, ça Pascal. Va, ça va.
Bon, écoute, ouais. On aurait préféré t'avoir dans d'autres
circonstances.
Ouais. Bon, j'imagine que tu es très touché de cette nouvelle qui est terrible.
Franchement, quand tu... je l'ai eu il y a quelques semaines en arrière pour parler de certaines choses. Et puis, c'est mon fils qui me l'apprend. C'est catastrophique. Cancer du pancréas, ça pardonne pas, puisque j'ai moi-même mes deux parents qui sont partis à cause de cette putain de maladie. Et là, on perd un ami, on perd un grand monsieur, un mec très attachant, Eric, comme je l'appelais, Roy. Roy, et ben voilà, une pensée à toute sa famille. Et c'est voilà, quand les personnes s'en présentent, il faut profiter, il faut pas attendre que les catastrophes arrivent. Je crois que ouais, celle-là, c'est une vraie catastrophe. Voilà,
juste, ouais. Jérôme et Pascal et Benoît, c'était un secret de polichinelle, mais Éric Roy n'a jamais parlé publiquement de sa maladie. Alors nous, on le savait, mais par respect pour lui, on n'a jamais évoqué, notamment à l'antenne, 3 ans et demi de lutte. Il n'en a jamais fait part, il a toujours été présent auprès de son équipe, il a fait des miracles à Brest. Ça, on l'a suivi, Jérôme. Il a emmené Brest en Ligue des Champions, la première campagne européenne de l'histoire du Stade Brestois.
Non, mais...
Et cette capacité de garder ce combat intérieur pour lui, ça, c'est exceptionnel, Jérôme.
Après, le combat, comme le dit Pascal, sur cette putain de maladie, ça t'est propre, en fait. Tu vois, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est que le courage, le guerrier qu'il a été pendant des mois et des mois, parce que ça n'a pas duré que 10 jours, de rester concentré et montrer tout l'amour qu'il avait pour le football et la passion du football, franchement, fait de lui quelqu'un qui mérite, alors ça ne le fera pas revenir malheureusement, mais un hommage... Un hommage incroyable de la part du Stade Brestois, mais même un hommage, j'irai plus loin, sur le football français. Moi, j'espère quand même que notre président de la Fédération Française du Foot va organiser quelque chose, parce que ce courage-là, il a montré l'exemple à beaucoup. Voilà. Et donc moi, je pense que Pascal, t'as été aussi très touché par son état d'esprit. C'était remarquable ce qu'il a réussi à faire pendant 2 ans à Brest.
Ben, c'est surtout quand tu connais encore plus le personnage, parce que j'ai passé quelques mois et des années avec lui, et un mec très attachant, un mec qui parlait que football, et lui on se côtoyait avec sa femme et sa famille, un mec qui ne demandait rien à personne. Et quand j'ai appris sa maladie il y a quelques semaines, je l'ai appelé parce que ça reste un ami. Et même je me trouvais à Lille quand il est venu avec Brest jouer à Lille,
sur la dernière journée.
Ouais, voilà, et franchement, quand on s'y attend pas, c'est encore plus douloureux, ouais.
Pascoa, est-ce que tu peux nous rappeler qui était le joueur Éric Roy? Nous, on a connu le dirigeant, on a connu l'entraîneur, le directeur sportif à Nice. Hein, rappelez-vous ce comeback incroyable après 10 années d'absence, revenir à Brest, le Paris brestois finalement qui fonctionne. Parle-nous du joueur Éric Roy. Jérôme l'a côtoyé à Troyes, donc il pourra nous en parler aussi. Mais quel souvenir tu gardes, toi, sur le terrain avec Éric Roy?
Ben, tout simplement, toujours souriant, jamais il relâchait tous ses efforts, ses, aux entraînements, toujours très constructif. La preuve, ce qu'il a fait après en tant qu'entraîneur, toujours passionné, avec qui on ne pouvait pas avoir de problème parce qu'on pouvait lui demander n'importe quoi, il le faisait. Voilà, je ne retiens que son sourire et sa facilité. Voilà, aujourd'hui,
toi, ton souvenir sur le terrain à Troyes avec lui?
Écoute, moi, je l'ai pas connu dans la même période que Pascal, mais il est venu à Troyes pour nous apporter son expérience de joueur dans un effectif qui était assez jeune. Derrière, en plus, il jouait plus trop au milieu, il avait pris plus pour jouer derrière. Et c'est vrai qu'il avait ce rôle un peu de grand frère, tu vois, toujours essayer de trouver les bons mots dans le vestiaire pour te ramener cette confiance qui est essentielle au plus haut niveau. Et puis surtout les conseils de joueurs de foot et sur le vécu. Et quand t'es un jeune joueur, ça te marque forcément. Alors des fois, je te cache pas, et c'est pas pour autant parce que j'avais ma personnalité, et des fois on pouvait s'engueuler aussi, parce que tu sais, quand t'as l'impression, et je l'ai connu après, un joueur expérimenté, t'as l'impression d'être le donneur de leçons, et le jeune à côté, il accepte pas toujours tout, donc des fois on s'est un peu engueulé, mais à l'arrivée c'était toujours bienveillant. Et là je suis d'accord avec Pascal. Dans un vestiaire, tu pouvais pas avoir de problème avec lui.
Exactement. Enfin,
ça, c'était une des grandes qualités. Et c'est pour ça, Pascal, même Benoît, que il a réussi sa carrière d'entraîneur et faire ce qu'il a fait à Brest. Parce que si t'es pas rassembleur comme ça, tu n'y arrives pas, surtout avec les moyens de Brest.
Ben, toi, t'as beaucoup de connexions dans le foot actuel. Tu connais forcément des joueurs qui l'ont côtoyé. Qu'est-ce qu'on t'en dit?
Des joueurs, surtout une personne de son staff, Christophe Revel, qui était son coach des gardiens pendant 2 ans et demi à Brest. Et ce qui est fou, c'est que Christophe, quand on a eu l'annonce, me l'a admis qu'il savait qu'il était malade. Et pour parler beaucoup avec Christophe, il a pu me parler beaucoup de la manière de fonctionner du staff, mais jamais il m'a dit qu'il était malade, alors qu'eux étaient au courant.
Il y avait une pudeur
et il y avait un secret qu'ils ont maintenu en eux. Alors, est-ce que les joueurs étaient au courant, pas au courant? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sorte de, comment on peut appeler ça, une sorte de...
D'accord.
Mais une sorte de solidarité, autour du coach Éric Roy. Et c'est aussi fort la part du Stade Brestois, parce que ça n'a pas énormément fuité.
Non, pas beaucoup. Non.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'était de ce que me disait Christophe Revel, c'était un entraîneur qui était un manager un petit peu à l'anglaise, qui surveillait, qui observait de haut. Il faisait beaucoup confiance à son staff, à Bruno Grougy, à Julien Lachuère, à Chris Revel. Et en tout cas, j'ai toujours entendu de belles choses d'Éric Roy.
C'est vrai.
Je précise que la Ligue de football professionnel a adressé ses sincères condoléances à la famille et aux proches et à toute la communauté du Stade Brestois par la voix de Vincent Labrune. C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès d'Éric Roy. Le football français perd aujourd'hui l'un de ses personnages les plus respectés, les plus aimés et les plus authentiques. Un grand merci à Pascal Olmeta qui est venu dans Antenne sans flamme ce soir.
Merci
Pascal, on pense à toi.
Salut,
on t'embrasse.
Je vous embrasse. Bonne soirée.
Et on a une forte pensée une nouvelle fois pour la famille et les proches d'Éric Roy, ainsi que pour les joueurs du Stade Brestois qui l'ont côtoyé. On a beaucoup d'amis dans le vestiaire, donc on pense à eux, notamment Brendan Chardonnay. Vraiment grosse pensée pour le
vestiaire. Ça doit être dur pour eux.
Le vestiaire
Brestois. Et puis ils ont vécu des choses tellement.
T'imagines.
Exactement. 20h05 sur RMC, en direct de la brasserie Flora, dans le 9e arrondissement de Paris. On revient dans un instant dans Rotten sans flamme pour la seconde période de ce Portugal, République démocratique du Congo.
La surprise.
Un partout à la pause entre les Portugais et les Congolais. Le Portugal avait ouvert le score par João Neves de la tête à la 6e minute. Égalisation de Juan Wissa à la 45e. Et dans le temps additionnel de la première période, on retrouve Xavier Grimaud à Houston dans un instant. On fera également le point sur l'équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.